La Technopole de Castres-Mazamet a lancé la Luciole, son nouvel incubateur dédié aux innovations de la transition écologique. À cette occasion, nous sommes allés rencontrer Bruno Bouteille, le PDG et fondateur de Sirea. Pourquoi Sirea ? Quand l'entreprise a été fondée, c'était au milieu des années 90, la transition énergétique était loin d'être au cœur des préoccupations. Au départ, Sirea doit son succès à une innovation dans le secteur des automatismes industriels, c'est-à-dire en gros les dispositifs qui permettent de superviser l'activité des machines pour de la maintenance par exemple. Mais 30 ans plus tard, l'un des moteurs du développement de Sirea, c'est son savoir-faire dans les activités de pilotage des dépenses énergétiques. Alors comment a-t-elle réalisé cette transition et quelle est la place de l'innovation ? Réponse avec son PDG et fondateur, Bruno Bouteille.
Merci de nous recevoir ici, on est dans vos locaux, donc c'est très sympa. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas très bien Sirea, vous avez beaucoup d'activités complémentaires. Vous pouvez nous dire en deux mots ce que vous faites et pour qui vous le faites ?
Oui, c'est très simple. En fait, l'entreprise, je l'ai créée en 1994, donc elle aura bientôt 30 ans. Et en fait, au départ, on est une entreprise qui travaillait dans les automatismes industriels. Et donc, une de nos premières activités, c'est la fabrication et la conception d'automates programmables, avec un concept qui était de se dire comment se démarquer des grandes entreprises dans un métier qui se concentrait très fortement. On trouvait principalement sur le marché des clients qui utilisaient des cartes électroniques très propriétaires, très fermées, et des clients qui utilisaient des automates. Donc nous, on s'était dit, comment se différencier ? La réponse a été de se dire, on fabrique une carte électronique qui est programmable comme un automate. Et plutôt que de faire des produits à l'unité, on va faire des produits sur mesure en essayant d'adresser des clients qui ont un certain volume pour nous permettre d'amortir en fait, les développements. Mmh. En fait, l'idée pour nous, c'était de se dire, plutôt que de trouver 100 clients qui vont nous acheter chaque fois un produit et à chaque fois faire une mise au point pour chacun de ces clients, en fait, il fallait mieux qu'on trouve un client qui nous prenne 100 produits et de bâtir dessus. Et ça, ça a été le gros facteur de développement de l'entreprise.
Aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, est-ce que vous faites toujours ça ? Qu'est-ce que vous faites d'autre ? Comment est-ce que
alors
ça évolue ?
Ça, en fait, c'est notre plus-value. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours nos automates programmables, on a toujours une clientèle pour laquelle on fabrique des automates en série. Donc, si vous voulez, ça, c'est le socle qui nous a permis de consolider l'entreprise parce qu'elle nous a offert de la pérennité, elle nous a apporté de la pérennité dans nos activités. Et en fait, après, derrière, on avait aussi adjoint à notre métier d'automaticien un métier d'électricien. Et moi, j'avais toujours eu tendance à penser que ce qui était noble dans le métier de l'électricien, c'était fournir de l'énergie, quoi. C'était produire de l'énergie et garantir aussi de l'efficience énergétique. Et donc, pour arriver à ça, il fallait contrôler aussi les consommations. Et pour contrôler les consommations, on avait besoin de systèmes de contrôle commande. Donc, on a commencé à utiliser nos automates avec des programmes particuliers dedans pour gérer les postes de consommation. Et donc, aujourd'hui, on a toute une activité de fabrication dans le domaine énergie qui nous permet de faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation pilotée. C'est-à-dire qu'on va intégrer des énergies renouvelables avec des énergies conventionnelles, des systèmes de stockage, etc., piloter des consommations et piloter la source d'énergie pour permettre à nos clients d'obtenir des économies d'énergie ou d'augmenter leur taux de pénétration d'énergie renouvelable. Voilà.
Typiquement, ça veut dire de l'équipement de stockage et de l'équipement de distribution d'énergie ?
Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on a une activité industrielle.
Ouais.
On fabrique des solutions qu'on appelle de stockage, qui sont faites à partir de batteries lithium. La particularité, c'est que ce sont des batteries lithium de seconde vie qui sont issues de la filière automobile. Et donc, en fait, on a développé, trois gammes. Une gamme pour le résidentiel, une gamme pour la petite industrielle qui se présente en armoire. Et aujourd'hui, on est monté en fait sur des nouvelles gammes qui sont quand même plutôt pour de l'industrie d'assez grosses dimensions, qui se mettent dans des shelters, c'est-à-dire des containers, qu'on peut positionner à l'extérieur des usines ou de l'extérieur d'un site, qui permet en fait de bonifier les surplus d'énergie photovoltaïque qui ne seraient pas consommés, plutôt de les réinjecter au réseau. On va les stocker dans les batteries, on va les restituer au moment où c'est opportun. On va pouvoir jouer sur les différences tarifaires, qu'on est en heure creuse ou en heure pleine, stocker l'énergie et la redistribuer plus tard. Et en même temps, aujourd'hui, on est complètement dans l'air du temps parce qu'on parle d'électrification des usages, développement des véhicules électriques, remplacement des chaudières par des pompes à chaleur. Et tout ça, c'est des équipements qui se pilotent. Et on peut les piloter pour atteindre une meilleure efficience énergétique et pour faire des économies ou pour éviter d'avoir trop de puissance appelée à un instant donné, etc. Et ça, on le fait avec nos automates. Ouais.
Il y a 25 ans, on parle beaucoup évidemment d'efficience énergétique, d'énergie verte. C'était moins le cas il y a 25 ans, sans doute déjà quand vous avez lancé cette autre activité. Comment est-ce que vous avez vu les choses évoluer et comment est-ce que ça a guidé comment vous positionnez votre activité ?
Alors, en fait, je pense que c'est comme tout, hein, c'est comme à titre personnel, etc. C'est toujours, en fait, l'opportunité des rencontres. Mmh. Donc, nous, on travaillait beaucoup dans le secteur médical. Et un jour, on m'a demandé de faire... Enfin, on avait été mis en contact avec le professeur Montagnier, qui était le professeur qui avait, pour ceux qui s'en souviennent, découvert le virus du sida. Et donc, en fait, ils avaient des laboratoires en Afrique et ils m'ont demandé d'intervenir en Afrique pour remettre, en fait, on va dire, en état de fonctionnement, des laboratoires qui dysfonctionnaient, quoi, tout simplement. Donc, j'ai été en Afrique travailler, notamment en Côte d'Ivoire. Et lorsque j'ai rencontré, ben, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des gros problèmes d'électrification, d'accès à l'électricité, gros problèmes de coupure, enfin, etc. Les réseaux n'étaient pas suffisants, entre autres. Et donc, en fait, on nous a soumis l'idée de pouvoir commencer à travailler sur des solutions pour rendre autonomes les sites et pour sécuriser l'accès à l'électricité. Voilà. Donc, on a commencé à avoir cette petite réflexion de se dire, ah ben là, peut-être, en tous les cas, il y a des endroits où, en fait, si en France, le coût de l'électricité était très peu cher et qu'à l'époque, on ne regardait pas quel était le coût de l'électricité, il y a des endroits où, en fait, c'était essentiel et qu'il y avait peut-être des solutions à apporter.
Mais ça ne fait pas encore un marché à ce moment-là. Enfin, c'est non, un prototype peut-être, un petit marché local.
C'est ça, ouais. Ce n'était pas complètement un marché et tout. Mais si vous voulez, ces premiers points d'entrée sur l'Afrique, ça nous a permis aussi d'avoir des collaborations. Et peu à peu, en fait, on a consolidé nos savoir-faire là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la problématique des énergies renouvelables a commencé à percer en Europe. Moi, je me suis dit, peut-être qu'on pourra amener une solution pour le résidentiel. Et donc, on a commencé à proposer une solution pour le résidentiel. Et donc, il y a une dizaine d'années, une entreprise allemande m'avait contacté et on avait fait un salon. Et on avait présenté une armoire avec un système de stockage, etc. Et je me souviens, à l'époque, ça avait fait le buzz. Mais tout le monde me disait, ça ne sert à rien. Le coût d'énergie est vraiment pas cher. Ouais. Donc, votre truc, c'est joli. Mais si c'est pour le connecter avec le réseau et faire des économies, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Mais bon, petit à petit, on connaît la tendance actuelle et on voit que le besoin maintenant, il a percé, quoi.
Très clairement.
Voilà. Donc on est en phase avec le marché aujourd'hui. Voilà.
Ouais, donc c'est une innovation qui naît d'un petit cas en Afrique pour un pays. Puis tout à coup, le marché finalement rattrape l'innovation et là, vous êtes en plein dedans.
Ouais, voilà, c'est ça. Et là aujourd'hui, le mariage en fait des systèmes de pilotage associés avec les systèmes de stockage et de conversion. Fait qu'on a une offre qui est différenciante et qui intéresse. Et en plus, avec la crise énergétique qu'on vient de vivre. Hein. Donc voilà, elle est vraiment opportune, quoi.
La Technopole de Castres-Mazamé vient de lancer un incubateur dédié à l'activité de développement, toutes les activités liées au développement durable. Comment est-ce que vous voyez, vous qui avez un œil dessus, les projets arriver? C'est quel secteur? Développement durable, c'est quand même large. Qu'est-ce qui va faire l'avenir?
En fait, je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui des problématiques du réchauffement climatique. Hein. On est au mois d'octobre, il fait 30 degrés, on voit bien que ça fait 3 mois qu'il n'a pas plu. J'ai vu le bouleversement climatique en Afrique, bien avant, je pense, beaucoup de personnes, parce qu'en Europe, on ne se rendait pas compte de ce que c'était. Mais j'ai vu des endroits où, en fait, la saison des pluies durait 3 mois et durait moins, et qu'il tombe en 1 mois ce qui tombait avant en 3 mois, que ça ravine les terres et que les terres deviennent stériles. Pour vous dire, j'ai aussi un terrain au Burkina qui est aidé à la culture vivrière d'un petit village. Et en fait, ils produisaient des cultures vivrières au bord d'un lac. Et un jour, je suis arrivé au village et j'ai posé la question. J'ai demandé où était le lac et on m'a répondu, tu as les pieds dedans. Voilà. Et ça, c'est le réchauffement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement économique si on ne parle pas de développement durable. Et le développement durable, c'est vaste, hein. C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est nos consommations, parce que derrière, on va avoir des rejets. Donc effectivement, il y a une multitude de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui même, je ne veux pas être pessimiste, mais je dirais qu'on est en retard. Et en plus de faire du développement durable, c'est-à-dire de bâtir l'avenir, on a beaucoup de projets à développer pour s'adapter. Parce qu'on voit bien que les cultures vont changer. Aujourd'hui, je vois des projets, par exemple dans notre région, de plantation d'oliviers. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, les oliviers sont en train de mourir de la sécheresse. Donc, le chemin est vaste et long. En plus, on est un pays qui a vécu beaucoup de désindustrialisation. Moi, je l'ai vu au niveau du bassin sur 30 ans. Et je pense que c'est aussi une opportunité de bâtir de nouvelles solutions. Je pense que les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus sensibles à ça. Je pense que quelqu'un qui, aujourd'hui, a 20 ans, à la vitesse où le monde change... Imaginer que dans 30 ans, ça risque d'être catastrophique, quoi, ou même avant. Voilà. Et si on veut en assurer un avenir aux enfants, il faut aller vers... voilà.
J'allais vous demander, parce qu'il y a une grande éco-anxiété des générations les plus jeunes, hein, qui voient les choses arriver comme nous, mais qui, elles, se disent, on a toute notre vie à vivre là-dedans, ça va être catastrophique. Vous sentez, parmi les gens que vous côtoyez, les jeunes chefs d'entreprise ou les gens en école d'ingénieur ou autre type de formation, qu'il y a une envie de se lancer dans cette aventure-là, en tant que, d'en faire leur activité professionnelle?
Je pense qu'il y a une chose qui a changé. C'est que je vois des jeunes qui sont beaucoup plus engagés. On voit les deux choses, hein, on voit, bon. Mais quand on voit des jeunes engagés, ils sont fortement engagés, et beaucoup plus. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ce que je vois aussi, c'est que beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils veulent donner du sens à leurs activités. Ce n'est pas simplement la recherche du succès lucratif, voilà. Ils veulent avoir un impact. Ça, je pense que c'est le gros changement. Moi, je vois tout un tas, hein, quand même, de projets innovants qui se font. On va dire qu'ils se cogitent. Tous sortiront pas, hein, bien entendu, mais j'espère qu'il y en a certains qui sortiront.
Qu'est-ce qui leur manque pour sortir?
En fait, on est à la frontière entre deux mondes. On a un ancien monde économique qui voit encore le monde tel qu'il était avant et c'est difficile de le faire basculer. Maintenant que je suis plus âgé, quand j'étais plus jeune, c'était toujours compliqué de convaincre des générations plus âgées que moi qui, en fait, finalement détenaient le pouvoir de décision et le pouvoir économique. Ben, aujourd'hui, on a le même problème. On voit le passé et on pense qu'on réfléchit court terme. Et des jeunes qui vont arriver avec des solutions ou enfin des idées nouvelles, ou même des moins jeunes, hein, ben à partir du moment où ça rompt des équilibres, où ça crée des déstabilisations, ben c'est compliqué à imposer. Donc c'est pour ça que souvent je me dis, le changement, il ne viendra pas du haut, il viendra du bas. Il viendra par petites touches. Mais bon, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il faudra accélérer, quoi.
Il faut leur faire de la place.
Il faut faire de la place, ouais. Et
les aider.
Enfin, il faut quand même rester optimiste. Mais on voit quand même, surtout dans le contexte local, on voit bien quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne sont pas des personnes utopiques, mais qui commencent à avoir des idées, qui commencent à être un petit peu, ou des réflexions un peu disruptives, et qui cherchent des alternatives. Donc je pense que ça, petit à petit, ça va croître. Là, tout à l'heure, j'avais une rencontre avec un nouvel entrepreneur. Et le plus difficile, c'est d'être résilient, de croire en ce qu'on fait, et malgré tout, malgré les difficultés, de continuer à être présent et de continuer à avancer et d'y croire. On arrive toujours à un moment donné qu'on est convaincu par soi-même à convaincre d'autres. Nous aussi, hein, on a beaucoup de choses à gagner, à faire le lien avec des sociétés plus jeunes et qui vont aussi peut-être nous remettre en cause notre manière de travailler ou notre organisation ou notre vision. Je pense que nous, on a des produits qu'on peut adapter à d'autres cas d'usage. On peut aussi, on peut contribuer, on peut aider sur des projets finalement qu'on n'aurait pas imaginé. Tout ça, je pense que ça crée de l'émulation. Enfin, nous, ça nous apporte de l'émulation. Ça peut apporter de l'expérience aussi. Je trouve que le partage, il est intéressant et il est important.
Si vous vous retrouvez dans les valeurs de Bruno Bouteille et de Cyrea, alors le secteur de la transition écologique vous tend peut-être les bras. En tout cas, la Technopole de Castres-Mazamet est là pour vous accueillir et vous accompagner avec son nouvel incubateur. Le lien vers son site internet et d'autres informations sont dans le descriptif de l'épisode. À bientôt !